Des hommes? Non, rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com. Sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à la littérature. Voilà, en particulier à trois auteurs que l'on aime beaucoup. Trois auteurs que mon acolyte, Thomas Roland, dit le loup-garou picard, qui donc chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes chroniques pour divers médias. Trois auteurs dont deux dont tu vas nous parler, Thomas, donc je t'adresse mon salut fraternel.
Salut fraternel à toi aussi, Jérôme, ainsi que salut fraternel à toutes.
Restons donc fraternels et on va vous dire quels sont les auteurs qu'on va mettre en avant durant notre heure de programme. On va vous parler, entre autres, de Nicolas Chemla, qui a signé, là, qui est paru aux éditions du Cherche Midi, L'Ensorcelé. D'ailleurs, on remercie Valérie Borghez pour son aide sur cette émission. On reviendra aussi avec Florian Kittard sur son livre Le Geôlier, qui est paru chez Rouge Profond. Et donc, bah voilà, Nicolas Chemla, Florian Kittard, deux auteurs dont vous allez pouvoir écouter les entretiens qui ont été réalisés par notre ami Thomas Roland, donc, qui est tombé en amour devant ces deux auteurs et surtout leurs ouvrages qui l'ont passionné. Il nous en dira plus. Avant de causer de ces deux auteurs, je voulais, moi, rendre un petit hommage à un auteur qu'on aime bien avec Thomas, qui est un peu parti dans l'oubli quand même, parce que c'est quand même un des pères du néo-polar français, c'est Jean-Pierre Bastide. Jean-Pierre Bastide, qu'on avait eu le plaisir de rencontrer avec Thomas pour un documentaire, qu'on avait eu le plaisir d'interviewer. On avait passé presque une journée complète avec lui, ça avait été fort sympathique. Jean-Pierre Bastide, bah, qui sait, hein, il est un peu revenu sur le devant de la scène ces dernières années, grâce au Chat qui fume, qui avait sorti son fameux long métrage, parce qu'il a aussi, à la base, c'est quelqu'un qui a fait l'IDEC et qui se destinait à faire du cinéma, qui était donc ce fameux long métrage qui était Massacre pour une orgie ou Orgie pour un massacre. Il a eu plusieurs titres, signé sous le pseudonyme hautement évocateur de la nouvelle vague, d'un point de vue bandulatoire, Jean-Loup Grodard. Voilà. Donc, Jean-Pierre Bastide a certes signé quelques films, a signé quelques scénarios, pas des moindres d'ailleurs, il a travaillé sur le scénario de Dupont-la-Joie, d'Yves Boisset, et surtout, c'était un militant de gauche très engagé, un nanar, voilà, un pur, un vrai, un dur, et qui, après l'enlèvement de Mehdi Ben Barka, va enquêter avec Jean-Patrick Manchette, et au final, ils vont coécrire ensemble « Laisser bronzer les cadavres », et « Laisser bronzer les cadavres », qui a été adapté d'ailleurs par Hélène Cattet et Bruno Forzani, qui est un livre qui va énormément compter. Alors, il n'y a pas que eux, c'est trop facile de dire, ils ont réinventé le néo-polar français, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en tout cas, ça a contribué au renouveau du polar français, du roman noir français, très exactement. Avec Michel Martins, donc, je vous le disais tout à l'heure, il va faire le scénario de Dupont-la-Joie. Et il a beaucoup travaillé pour le cinéma, pour la télévision. Il a fait des choses plutôt intéressantes. Il n'a jamais écrit le grand livre ultime, il n'a jamais fait le grand film ultime. Par contre, il a une constante d'avoir énormément travaillé, d'avoir produit une littérature qui voulait quand même ambitieuse, parce qu'il jouait avec les temporalités, il jouait avec les styles, et il a fait les beaux jours quand même énormément de la série noire. Donc il y avait Laisser bronzer les cadavres, il y a eu Méchoui Massacre, il y a eu avec Michel Martins d'ailleurs Les Tours d'Angoisse, enfin il y en a eu plein. Il y en a eu plein, pour beaucoup paru à la série noire, et puis il a énormément travaillé, il n'a jamais arrêté, il a fait des romans, mais toute sa vie, et travaillé aussi avec quelques revues, il a même fait un peu de littérature jeunesse, enfin il a fait beaucoup de choses, toujours autour du polar, et il a même fait du cinéma institutionnel aussi, enfin il a fait vraiment beaucoup de choses, il a bossé quoi, voilà, il a bossé, il a fait énormément de choses, et nous on voulait lui rendre hommage, parce que c'est quelqu'un qu'on aime bien, on aime bien sa plume, on aime bien le bonhomme qu'il était, on aime bien l'investissement et le courage qu'il avait. Donc on voulait faire un petit hommage aujourd'hui à cet écrivain, réalisateur, scénariste, qui nous a quittés le 22 janvier 2026, donc c'était il n'y a pas longtemps, qui était né en 37, donc il a eu une belle vie hein, quand même, notre ami Jean-Pierre Bastide. Et donc eh bien, on lui souhaite bon vent, et puis on souhaite aux prochaines générations de continuer à lire ses polar. Bon, là, on va pas vraiment être dans le polar, mais on va revenir sur un ouvrage, mon cher Thomas, qui s'appelle L'Ensorcelé, qui est signé Nicolas Chemla et qui est paru aux éditions du Cherche-Midi.
Oui, souviens-toi, Jérôme, en 2023, j'avais déjà pris L'Abîme, un livre de Nicolas Chemla, comme livre de l'année, hein, où il était question de satanisme, d'une étrange demeure, dans un fantastique tout en demi-teinte, avec des fulgurances horrifiques, le tout étant assez sombre et poisseux. Donc après L'Abîme, Nicolas Chemla entraîne, avec L'Ensorcelé, le lecteur dans les profondeurs du barrage de Mauvoisin, en Suisse, par l'intermédiaire de son personnage, un motard solitaire, adepte des excursions en montagne. Durant son périple, il se remémore son parcours, ses victoires et ses défaites, ce qui est aussi l'occasion pour l'auteur de dresser un portrait de la société actuelle, des pensées qui la façonnent, ou plutôt de leur absence. Tel Scott Carey dans L'Homme qui rétrécit, ou encore le personnage principal de L'Abîme, le héros de Nicolas Chemla se perd, s'enfonce dans le vide, un gouffre qui n'est autre que ce nouveau monde qui se profile, qu'il ne comprend pas et qu'il refuse. Comme L'Abîme, qui était une vertigineuse plongée dans ce que l'humain peut avoir de plus sombre en lui, L'Ensorcelé relève bien plus d'une intime expérience politique que de réflexion sur une société en pleine mutation. Le style adopté par Nicolas Chemla, une écriture fiévreuse, une langue foisonnante et érudite, une narration complexe, non linéaire, est en elle-même un acte politique et de résistance qui prouve que la littérature possède un grand pouvoir d'évocation et qui est aussi un remède contre l'oubli et l'obscurantisme et met en évidence la futilité d'un monde qui s'uniformise, dénué d'aspérité et de complexité et qui se replie sur lui-même, fier de son autosuffisance par le biais des réseaux sociaux, de morale manichéenne et de kit du prêt-à-penser. Ce parcours introspectif met également le personnage face à lui-même pour finalement se rendre compte quelle est réellement sa place et par extension celle de l'espèce humaine, celle de l'humain. Alors, ce qui n'était qu'une simple randonnée durant laquelle le personnage principal ruminait ses colères, acquiert des accents métaphysiques jusqu'à la folle et fantastique conclusion. Et donc, L'Ensorcelé, hein, qui est pour moi l'un des premiers grands chocs littéraires de cette année 2026, L'Ensorcelé de Nicolas Chemla est paru aux éditions du Cherche-Midi. Nicolas Chemla, vous êtes l'auteur de L'Ensorcelé, et à la lecture de ce roman, moi je pense beaucoup à Micromégas de Voltaire.
Effectivement, il y a un regard, on va dire, sur l'époque contemporaine, oui, qui peut faire penser au un regard d'étrangeté, on va dire, sur le monde qui peut faire penser à Micromégas de Voltaire, mais j'avoue que c'est pas une référence immédiate pour moi. Enfin, en tout cas, c'était pas une de mes références en écrivant ce roman.
Oui, enfin, moi, ça m'est apparu en le lisant, c'est-à-dire ce personnage qui est confronté à cet immense barrage, etc. Et puis ce rapport du plus petit au plus grand. Moi, c'est ce qui m'est apparu à la lecture de L'Ensorcelé. Et vous dites aussi que l'idée de ce livre vous est venue quasiment en même temps que L'Abîme. Et les deux livres semblent se répondre avec un personnage similaire, confronté avec ses propres interrogations, ses propres doutes, face à quelque chose qui le dépasse. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ça ?
Alors effectivement, les deux idées me sont venues à peu près au même moment et de fait, j'ai écrit les deux romans quasiment en même temps, enfin en tout cas d'affilée. Alors évidemment, L'Ensorcelé depuis la sortie de l'Abîme a été pas mal repris, mais disons que j'avais une première mouture que j'ai écrit au même moment. Alors bon, pour ceux qui connaissent pas l'Abîme, c'est effectivement un livre également d'enfermement, puisque c'est l'histoire d'un type qui est seul chez lui avec un chat dans un appartement mansardé et qui se sent l'objet de forces occultes et qui va découvrir que l'appartement, enfin l'immeuble dans lequel il habite depuis longtemps est historiquement le lieu de, enfin ou disons la plateforme un peu centrale de l'occultisme parisien de la fin du 19e siècle. Et du coup, j'en profite pour raconter un peu l'histoire du quartier dans lequel j'habite, où Huysmans, de fait, est venu assister à des séances de spiritisme, notamment avec Papus, grand mage de la fin du 19e. Et donc oui, enfin, de L'Ensorcelé, c'est l'histoire d'un homme qui s'enfonce dans un tunnel, et également à un moment un peu de crise de sa vie, enfin de crise existentielle, hein, de remise en cause de tous ses fondements, de toutes ses croyances. Le rapport au fantastique, on va dire, dans L'Ensorcelé est un peu moins immédiat, un peu moins évident. Enfin, en tout cas, il prend de l'ampleur à mesure qu'on avance. Dans le roman, alors que dans l'Abîme, on est très vite dans une atmosphère gothique fin de siècle. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le rapprochement? Oui, il faut croire qu'à l'époque j'étais très fortement confronté à mes démons et que j'avais ces idées. Enfin, ces inspirations qui ont pris corps un peu dans ma tête et puis ensuite dans mon écriture, et j'aimais bien l'idée qu'il y ait une réponse, ouais, enfin une résonance en fait entre les deux. On passe d'un appartement mansardé à un tunnel, mais dans les deux cas, c'est des plongées au cœur de, oui, au cœur de l'abîme, au cœur de la folie, jusqu'au bout, quoi. Voilà.
Alors moi, ce que je remarque aussi dans vos écrits, enfin, je n'ai lu que trois livres que vous avez écrits, c'est ce désir d'infuser du mysticisme, de la spiritualité, de la métaphysique. Quel est votre rapport à tout cela et à la religion ?
Pour moi, ça renvoie vraiment d'abord et avant tout à ma compréhension de la littérature, enfin, en tout cas, ce que j'estime être... non seulement son rôle, mais son dernier sursaut. C'est-à-dire, moi, je m'interroge beaucoup sur le médium en lui-même, hein, et le fait que c'est peut-être lié à ma formation de consultant et d'anthropologue, mais disons que je regarde toujours l'activité littéraire en comparaison des évolutions technologiques et civilisationnelles récentes, et je pense que, enfin voilà, à la fois, on sait tous très bien que le livre se porte pas très très bien, mais en même temps, on n'a jamais autant écrit et consommé de textes qu'aujourd'hui, tout simplement par exemple sur les réseaux sociaux, hein. Enfin, je veux dire, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, c'est des textes, des micro-textes, mais c'est des textes quand même et de la langue. Et j'ai l'impression qu'on est confronté comme ça à une langue qui est délavée. C'est-à-dire qui est un peu vidé de sa substance et de sa force et de sa puissance quasiment magique. Enfin, je vais revenir sur la notion de magie, mais je pense que c'est la seule raison d'être aujourd'hui de la littérature, à l'inverse de ce que nous racontent pas mal de théoriciens, de critiques et d'auteurs. Je vais pas les nommer, mais enfin des gens qui sont très à la mode, qui revendiquent une écriture plate, une écriture blanche. Moi, je pense que ça n'a aucun sens d'écrire ce genre de texte, parce que précisément c'est ce qui pullule partout ailleurs. Et je pense que la seule raison de continuer à écrire de la littérature, c'est précisément de réinsuffler, enfin d'insuffler à nouveau dans la langue son pouvoir d'envoûtement, de magie et d'ensorcellement. Et cette notion de mots délavés, enfin de langue délavée, je la pique à Werner Herzog, qui est un cinéaste que j'adore par ailleurs, et qui écrivait comme ça au début des années 70, quand il défendait son rapport notamment au documentaire et sa volonté d'aller retrouver des images qui ont toute leur puissance d'impact et d'envoûtement. Il disait que la culture publicitaire, en fait, produisait comme ça à la chaîne des images délavées. Et je pense qu'on est exactement dans la même situation par rapport à la langue aujourd'hui. Et quand je parle de magie de la langue, et donc là je vais répondre à votre question sur mon rapport à la religion. En fait, moi je suis juif, donc je viens d'une famille juive. J'ai une éducation religieuse, enfin très très laïque, hein, mais enfin bon, comme tous les gamins, on m'apprend un peu le béaba de l'histoire sainte, etc. Et dans le judaïsme, la langue est fondamentalement magique. Enfin, la Kabbale vient de là. Hein. Il y a un rapport entre les lettres et les nombres. Au commencement était le verbe. Il y a quelque chose de fondamentalement divin et de démiurge, en fait, de création du monde dans la langue. Et pour moi, voilà, je pense que c'est quelque chose dont je me suis jamais défait, en fait, c'est cette idée qu'il y a quelque chose de magique dans l'art de manipuler les mots, les sonorités, voilà. Et puis par ailleurs, je suis d'une famille en fait mélangée, métissée, donc j'ai une autre moitié de ma famille qui est catholique, et donc j'étais très très tôt fasciné par cette imagerie, puisque donc le judaïsme est une religion dépourvue d'images, enfin pour faire simple, hein, mais c'est très abstrait, il n'y a pas de représentation. Alors que le catholicisme, je vous l'apprends pas, foisonne de représentation. Et moi, j'étais très très tôt fasciné, ouais, par cette imagerie, cet imaginaire. Et je pense que ça a aussi créé, comme ça, bon, ma volonté d'aller retrouver un peu ce frisson, cette intensité face à ce qu'on peut appeler un peu benoîtement du surnaturel. Voilà.
Alors justement, vous parliez de cette littérature un peu vide, un peu blanche, là. Moi, quand je lis aussi L'Ensorcelé, je pense aussi à Annie Lebrun, dont l'un de ses derniers livres.
Oui.
Je crois même qu'elle est citée dans le livre, si je me souviens bien.
C'est fort probable, ouais. Je ne sais plus. Mais
en tout cas, j'ai fortement pensé à elle. Et aussi au fait, vous parliez des textes, des micro-textes sur les réseaux sociaux. Justement, ces micro-textes, moi, je trouve que même les micro-textes ont tendance à disparaître au profit de l'image, du tout image, où l'image, en fait, comme le dit Annie Lebrun, au bout d'un moment, elle n'a plus de signification, vu que c'est toujours les mêmes images, les mêmes poses, les mêmes cadres. Donc, ça n'a plus de signification. Et comment voyez-vous l'avenir de la littérature, de l'art en général, de la littérature, de la littérature comme on peut la lire dans L'Ensorcelé ?
Bonne question. Alors déjà, Annie Lebrun, vous avez tout à fait raison. Pour moi, c'est vraiment une référence fondamentale depuis mon premier livre, hein, Lucifer, qui est paru il y a 10 ans. Chez Séguier déjà, enfin plus de 10 ans maintenant. C'est une des penseurs, penseuses qui m'a le plus influencé, enfin qui a vraiment joué un rôle fondamental dans ma propre évolution, mon propre parcours, j'ai envie de dire, intellectuel et spirituel, et je lui ai piqué, entre guillemets, enfin en tout cas elle a inspiré quelque chose qui est très important pour moi dans mon écriture, dans mon rapport à la littérature et dans ce que j'ai envie de créer, dans ce que je cherche, dans ce que je lis, c'est précisément la notion de verticalité. Un point de départ de sa réflexion sur le monde, c'est cette idée que tout est aplani, et donc on vit dans un monde de plus en plus plat, qui est dépourvu donc de profondeur et donc de verticalité, que ce soit vers le haut ou vers le bas, et que précisément elle parle beaucoup de la poésie quand elle parle de ça, mais pour moi ça rejoint l'idée, enfin mon regard sur la littérature rejoint le sien sur la poésie, cette idée que la poésie est là pour ouvrir des brèches, donc littéralement des abîmes, hein, de verticalité dans cet aplat du langage et du réel. Et donc, de fait, je pense qu'elle était très presciente en écrivant ça, parce que au moment où elle écrit ça, on est dans les années 60-70, il n'y a pas encore cette prolifération d'écran. Et donc, moi, ce que j'explique dans L'Ensorcelé, notamment, et d'où mon rapport aussi à la montagne, c'est que, voilà, les écrans, littéralement, c'est de la platitude. Et donc, on vit comme ça dans un monde où tout est plat, où on perd complètement la notion de relief.
Vous écoutez Nicolas Chemla, auteur de L'Ensorcelé, disponible chez Le Cherche Midi, au micro de Culture Prohibée.
Là où ça peut rejoindre un regard sur l'avenir de la littérature, bon, je ne suis pas Madame Irma, hein, mais je pense que vous l'aurez compris à la lecture de L'Ensorcelé, je suis assez pessimiste sur... et puis là, enfin voilà, ce qui s'est passé au cours des dernières semaines en termes d'IA, enfin on voit à quel point ça va très très vite, hein, l'accélération. L'accélération d'ailleurs, elle est par définition exponentielle dans ce domaine-là, puisque les IA dévorent l'intelligence et l'apprentissage en fait. Et donc c'est un apprentissage qui va de plus en plus vite. Et chaque jour, elles parviennent à faire des choses nouvelles. Là, je voyais, il y a même pas une demi-heure, je voyais une interview de Damasio, Alain Damasio, qui est par ailleurs un des rares auteurs contemporains que je trouve vraiment impressionnant. Qui expliquait que voilà aujourd'hui l'IA sait faire ce que n'importe quel écrivain respectable et talentueux est capable de faire. Donc j'ai vraiment envisagé l'ensorceler. Le titre initial c'était Mise à mort et je l'avais vraiment envisagé comme une espèce de last hurray comme disent les Anglais, enfin de dernier tour de piste à la fois de moi-même et du roman avant la fin de tout, quoi, parce que je crois que on est vraiment à un point de bascule civilisationnel. Et alors après, c'est très paradoxal, parce que la défense que des gens comme moi peuvent avoir par rapport à cet effondrement très 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 prochain de la littérature et donc de l'humanité, enfin de notre capacité à créer de la langue et des histoires qui échappent à l'algorithme, c'est précisément de dire bah voilà, en fait il faut travailler la sortie de route, il faut travailler l'accident, il faut travailler la surprise, et donc tout ce qui va faire qu'on échappe au programme. Sauf que précisément échapper au programme, ça peut très vite devenir un programme, et très certainement que ChatGPT et Claude vont très vite devenir capables de créer ce genre d'accident qui crée de la poésie. Donc voilà, je suis désolé pour vos auditeurs, mais je suis pas très encourageant dans mon regard sur l'avenir.
Oui, par rapport à vos propos sur la littérature et les différents propos tenus par votre personnage dans votre livre, ça rejoint un peu ce que disait George Orwell sur l'appauvrissement du langage. Hein. L'appauvrissement du langage, c'est aussi l'appauvrissement de la pensée. Ça rejoint un peu tout cet aplanissement qu'on peut trouver. Mais j'y vois aussi, c'est même très clair, hein, au cours du récit, il est fait référence à des catastrophes naturelles. Donc, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas cet appauvrissement du langage, de la pensée? Est-ce que c'est aussi une parabole sur non seulement la fin d'un monde, mais aussi la fin de la civilisation dans son ensemble?
Je ne sais pas. En tout cas, oui, c'est certain qu'il y a un parallèle. Moi, je suis très habité par la notion d'effondrement. Enfin, il n'y a pas que moi. Hein. L'ensorcelé s'inscrit sous notamment l'influence de deux auteurs que j'adore, qui sont Saül Bellow et Philippe Roth, et qui tous les deux... en fait, construisent à peu près toute leur œuvre sur cette notion d'un effondrement, enfin, ou d'une menace d'effondrement permanente, enfin, qui est le propre même de l'existence humaine. Enfin, je veux dire, voilà, en un battement d'aile, notre passage sur Terre, il se résume à même pas une microseconde à l'échelle du cosmos. On a l'impression de faire des choses, de vivre, de ressentir, mais en fait très vite de tout cela il ne restera rien. Et c'est précisément de l'élan que peut nous donner la contemplation de l'abîme et de cet effondrement qu'on va créer une espèce d'énergie du désespoir, enfin de feu d'artifice comme ça, au-dessus du volcan, au-dessus de l'effondrement, au-dessus de l'abîme. Donc moi je pense que c'est ça la littérature, et puis c'est aussi une forme de sagesse. Enfin, je crois que écrire sans penser, sans se dire que aucun de nos combats n'a une quelconque valeur, que de toute façon, de tout ça, il restera que de la poussière. Et essayer de trouver dans cette poussière quelques figures comme ça, un peu étincelantes, et de sauver quelques éclats de diamants dans ce balai de poussière. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qui nous reste à faire, en tout cas en tant qu'auteur.
Donc vous avez écrit, si je ne me trompe pas, 3 romans fantastiques, si on compte leur sorceler dans le genre fantastique. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fantastique? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Et avez-vous des références? Est-ce que vous avez des influences, des auteurs? Là, vous citez Rosemary's Baby dans L'Ensorcelé, le film de Polanski.
Ouais.
Quelles sont donc vos influences? Quel est votre intérêt par rapport au fantastique?
Alors, bah, je pourrais en parler pendant des heures, je vais essayer de faire court. Mais alors, premièrement, moi j'essaie d'échapper au genre. Je crois pas au genre, même si j'adore le genre fantastique. Mais je crois que pour moi, toutes les grandes œuvres échappent au genre dans sa définition la plus étroite. De la même manière que je crois pas au genre dans tous les sens du terme. Hein. Donc, moi j'essaie de faire des œuvres qui sont à la croisée de différents domaines littéraires, on va dire. Donc on ne sait pas si c'est de la fiction, du documentaire, on ne sait pas si c'est du fantastique ou de la poésie ou de la psychologie ou du drame. Et donc même Monsieur Amérique, en fait, pour moi, s'inscrit dans la même dans cette même démarche d'écrire toujours à la frontière, à la lisière, à l'orée, en fait, du réel et de l'imaginaire. Donc ça, pour moi, c'est quand même assez important de le préciser. Après, sur le fantastique en lui-même, si on doit parler de genre véritablement, à nouveau, moi, j'ai la conviction que c'est le seul vrai genre littéraire en vérité, et qui, j'avais dit une fois dans une interview, qu'à mon sens, il n'y a de littérature que spirit, il n'y a de littérature que halluciniste, pour reprendre un terme qui m'est cher et que personne ne comprend, mais j'ai écrit un petit manifeste dessus, donc on pourra mettre le lien si vous voulez. Mais c'est-à-dire que, à nouveau, si on revient à ce qu'est la langue, le langage, en fait, c'est une illusion. Il y a quelque chose de très trouble dans notre conviction que, à la fois, le langage sert à nommer les choses et à communiquer entre nous, et en même temps, précisément, il les trouble. Il recouvre les choses plus qu'il ne les désigne. Donc, pour moi, par définition, la littérature, elle se situe à cette zone de trouble entre ce dont on est convaincu et les doutes qu'on peut avoir sur la réalité de ce qu'on vit. Donc, pour moi, c'est vraiment là que se situe la littérature. En plus, il se trouve que ce soit en cinéma ou en littérature, le fantastique, c'est vraiment le laboratoire. Enfin, c'est là que s'écrivent non seulement pour moi les plus grandes œuvres, mais que c'est là que s'inventent en fait les formats et les... Alors au cinéma, c'est très très clair. Hein. Enfin, je veux dire, tous les plus grands réalisateurs sont passés par le fantastique, et c'est dans le fantastique que la mise en scène se travaille le plus en fait et s'invente le plus. Alors évidemment, on va pas trop développer autour de Murnau, mais c'est pas un hasard si j'ai écrit sur lui. Si vous voulez, c'est un des plus grands réalisateurs qui a posé les bases du langage cinématographique contemporain. Précisément parce qu'il travaillait le fantastique et qu'il travaillait le véritable pouvoir des images et du cinéma sur le spectateur, enfin donc le lecteur au même égard. Donc ouais, pour moi c'est vraiment c'est ce qu'il y a de plus excitant en fait dans ces deux arts-là. C'est là que ça se joue le plus. Alors après, des influences, oui, enfin je pourrais vous faire une liste assez longue, hein, mais évidemment Lovecraft qui est un auteur complètement sidérant, mais aussi je parle de Mary Shelley dans L'Ensorcelé. Pour moi, Frankenstein c'est vraiment un des plus grands romans jamais écrit, enfin tout genre confondu, quoi. Et je trouve ça d'autant plus sidérant que c'est écrit par une jeune fille de 18 ans à peine au moment où elle où elle l'écrit, et on voit bien dans Frankenstein que le genre échappe au genre, c'est-à-dire que Frankenstein, on se bat encore pour savoir si c'est de la science-fiction ou du fantastique, puisque de fait c'est de la science-fiction, puisque ça part d'une réflexion scientifique sur le pouvoir de l'électricité, sur le rapport à, sur le mystère de la vie, et en même temps c'est pour beaucoup de gens considéré comme un roman fantastique, mais c'est aussi un formidable roman philosophique, c'est un roman social, c'est un roman d'amour, c'est un roman total en fait, et moi ce qui m'intéresse c'est la littérature totale. Mais je pense qu'effectivement c'est par le fantastique qu'on y arrive, parce que sinon on écrit que des petites histoires qui collent au réel, en fait, et qui, pour moi, du coup, passent complètement à côté de ce que c'est que véritablement la littérature.
Alors, tout à l'heure, on parlait de cet aplanissement, hein, et votre personnage, dans votre roman, hein, L'Ensorcelé, donc, qui est paru au Cherche Midi, je le rappelle, Nicolas Chalamet, votre personnage, à un moment, se dit que a cru que le beau pouvait sauver le monde. Mais le beau, aujourd'hui, dans cette recherche de pureté absolue où l'artiste doit être pur, où l'œuvre doit être pure, est-ce que le beau se doit, quelque part, ne se doit-il pas aussi d'être rugueux, comme le genre fantastique, comme tout ce que vous venez de dire, en fait?
Oui, bah, quand je parle du beau, effectivement, je ne suis pas forcément dans une définition d'une beauté pure ou absolument... absolument lisse, pas du tout. Non, c'est quand je parle du beau, c'est plus l'émotion qu'on peut ressentir. En fait, je crois que plus que le beau, vous faites bien de le souligner. D'ailleurs, je devrais peut-être corriger ce que j'ai écrit. C'est pas tant le beau que la merveille. En fait, c'est vraiment la notion d'émerveillement qui pour moi est très importante. En plus, je pense que ça renvoie un parcours individuel, spirituel, individuel, mais que je pense beaucoup de gens suivre. Hein. À un moment, on comprend que qu'il y a de la merveille dans le monde, et ça peut être une forme d'apaisement et de soulagement, et en même temps, ça peut vous aussi donner de l'énergie d'avancer. Mais je crois que... je pense que... ça peut sauver le monde, enfin en tout cas ça peut sauver les âmes, et même si c'est impensif, je pense qu'effectivement si on apprenait tous à voir la merveille autour de nous, on passerait peut-être un peu moins de temps à se tirer dessus, c'est une certitude, même si ça peut paraître être une impensif. Et après ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur cette idée que pour moi la littérature, l'élan littéraire part de la certitude de l'effondrement, de la fin de tout, tout va finir en poussière, et dans cette poussière, essayer quand même malgré tout de trouver des éclats de diamants, des étincelles, et de se dire qu'il y a quand même quelque chose à sauver dans l'expérience de l'humanité qui est globalement, ça dépend de l'humeur dans laquelle on se trouve quand on la regarde, mais c'est pas forcément une expérience très concluante à l'échelle de la planète, quoi.
Vous écoutez Culture Prohibée, spécial sortie bouquin. Après ces quelques mots de Nicolas Chemla, qui est l'auteur de L'Ensorcelé, paru aux éditions du Cherche Midi. Thomas, je vais continuer à te laisser la parole, hein, puisque tu voulais aussi nous parler d'un auteur, mais qui est aussi une sorte d'artiste qui a plein de super pouvoirs, quoi. Lui, il fait plein de choses, il a une palette un peu infinie de talents, il touche à tout. Et donc, cet artiste, c'est Florian Kitard, qui a signé le Geôlier, qui est paru là chez Rouge Profond.
Oui, et qui était mon livre de l'année 2025. Et donc, j'ai voulu en savoir plus sur Florian Kitard, qui fait partie de mes contacts Facebook, alors donc c'est plus facile. Donc, je l'ai contacté pour en savoir un petit peu plus sur le personnage et sur son œuvre. Donc, j'ai pu lire sa bande dessinée, La pluie des corps, et puis son recueil de nouvelles, Comédie inhumaine. Bon, qui sont difficiles à trouver maintenant, hein, qui sont malheureusement des maisons d'édition qui n'existent plus. Ou, enfin bref, on peut quand même les trouver en cherchant bien. Et Florian Quittard, qui est aussi non seulement écrivain, mais qui a été d'abord scénariste et réalisateur de courts-métrages. Donc j'ai voulu en savoir plus, donc je me suis plongé un peu dans son œuvre. J'ai pu voir le court-métrage qui est visible, c'est-à-dire L'alarme du fantôme. Je n'ai pas vu les autres films qu'il a scénarisés ou réalisés, notamment ses films d'animation. Il a fait des films d'animation. Moi, j'aime beaucoup le cinéma d'animation, donc je n'ai pas eu l'honneur de pouvoir les découvrir. Mais donc, je me suis replongé dans son œuvre, surtout littéraire. Et ça a été l'occasion de pouvoir échanger avec lui pour enfin programmer une petite interview avec Florian Quittard, qui, je pense, est le prochain espoir de la littérature fantastique française. Florian Quittard, vous êtes l'auteur du Geôlier, mais vous, auparavant, vous êtes d'abord scénariste et réalisateur. Que pouvez-vous nous dire sur vos expériences de scénariste de court-métrage, de réalisateur de court-métrage ?
Alors effectivement, j'ai eu une première vie avant celle d'auteur, en tout cas de BD, de recueil de nouvelles et de romans. Donc effectivement, avant ça, j'étais plutôt côté cinéma. Et effectivement, ça fait assez longtemps que j'écris les scénarios. J'ai baigné dedans, pas tout petit peut-être, mais du moins à l'adolescence, j'ai commencé à écrire les premiers courts-métrages. Alors c'était assez mauvais à l'époque, hein, il faut quand même se le dire. J'avais l'idée d'un court-métrage d'adolescent. Je me souviens où j'avais une idée très originale d'un groupe de braqueurs qui ratait son braquage et qui se réfugiait dans un lieu tenu secret où tout se passait mal. Entre eux, l'idée m'avait paru géniale, bien entendu à l'époque, c'était juste après Reservoir Dogs, et en fin de compte, l'idée était pas si bonne que ça. Donc il y a eu tout un apprentissage un petit peu pendant l'adolescence. Et puis la révélation ça a surtout été en 2000 en fait, quand j'ai quitté une fac d'anglais pour me préparer à entrer en fac de cinéma. Et en fait, pendant les quelques mois en attendant la rentrée, j'ai découvert une bible incroyable, la dramaturgie de Guy de Lavandier, voilà, chez Le Clown et l'Enfant, qui était un bouquin sur bah voilà, là apprendre à écrire, l'art d'écrire, et j'ai vraiment tout appris dans ce livre, et j'ai même eu l'occasion d'en discuter avec Yves Lavandier récemment par un message interposé, de le remercier pour tout ce qu'il m'avait appris. Donc ça a été vraiment le déclic. Et puis après, il y a eu la fac de cinéma qui m'a apporté toute une, voilà, on va dire une culture cinéma, un apprentissage assez théorique. Et puis surtout, fac de cinéma pendant laquelle, avec 5 amis de cette fac, j'ai monté une association de court-métrage, voilà, pour vraiment pratiquer, on va dire, une association qui s'appelait très, très humblement, qui s'appelait Zenividi Filmi, voilà. Et qui nous a permis en fait de réaliser plein de petits films, d'apprendre en fait à réaliser, d'être réalisateur sur ces films et puis de tenir d'autres postes sur les films des autres. Donc c'était aussi assez polyvalent, très intéressant. Et notamment, on tournait pas mal en Super 8 à l'époque. Moi, j'avais monté une sorte de manifeste de cinéma très humblement aussi, un peu à la Lars von Trier, que j'avais appelé le néo-muet. Voilà. Une façon de réaliser des courts-métrages en noir et blanc, silencieux, en Super 8 ou en 16 mm, en hommage au film du Primiti du début du siècle dernier. J'avais montré ces films à Yann Kounen, j'avais montré ces films à Guy Madin, avec qui j'avais été en contact grâce au Festival de Toronto. Donc c'était une belle aventure à l'époque. Voilà, Guy Madin, pour qui j'avais créé un court-métrage qui avait failli se faire. Voilà, c'était aussi une belle aventure. Puis il y a eu aussi, petite étape importante, les petits contes de nuit, des contes animés en 2D très simples que j'avais écrits à partir de petits poèmes. Le premier, c'était La botte secrète d'Oswald l'Épouvantail. Le deuxième, qui a eu son importance par la suite, s'appelait La larme du fantôme. Et ça devait former une série de petits contes de nuit qui, là non plus, ne s'est pas faite. Mais au moins, il y a eu les deux premiers films d'animation qui existent, et qui existent toujours aujourd'hui. Et puis, enfin, voilà, parallèlement à tous ces courts-métrages, il y a eu beaucoup d'écriture de scénarios, de courts et de longs-métrages. J'ai écrit pas mal de scénarios de longs-métrages. La chasse aux fantômes, Le prochain monde, Trois vœux, Islands and Lies, et bien sûr La pluie des corps aussi, qui a donné la BD ensuite. Donc voilà, il y a eu énormément de projets. Tous ces longs métrages ont été écrits et le sont toujours, mais n'ont rien donné. Voilà, mais c'était vraiment une belle époque d'apprentissage.
Comment en êtes-vous arrivé à travailler avec Rufus sur Les Larmes du fantôme quel regard portez-vous sur votre expérience cinématographique rétrospectivement?
Sans refaire toute l'anecdote, en fait, pour Rufus, ça a été vraiment un concours de circonstances assez fabuleux. Donc, après avoir réalisé le petit film d'animation La Larme du fantôme, le père d'une amie qui est réalisateur de télévision, Dominique Ladoge, a vu ce film d'animation et a dit « mais il faut qu'on en fasse un court-métrage, en fait. Ça peut être fabuleux d'en faire un court-métrage. » Donc, on a commencé à travailler là-dessus. Et donc, au départ, bien entendu, le rôle de l'enfant, du petit garçon dans La Larme du fantôme devait être tenu par un petit garçon. Jusqu'au jour où j'ai eu la bonne idée, où je me suis dit « Eureka, l'idée géniale, en fait, j'aimerais bien que le petit garçon soit joué par Rufus. » Voilà, et qu'en fait, l'histoire du court-métrage devienne l'histoire plutôt d'un vieil homme qui revient dans la maison de son enfance, hanté par les fantômes de son enfance, et qui revit à ce moment-là la scène du décès de son père. Voilà. Et donc, on a, par l'intermédiaire de ce réalisateur, Dominique Ladoge, qui a produit le court-métrage, il avait déjà tourné avec Rufus, donc il l'a contacté. Et Rufus a eu la gentillesse d'accepter de venir tourner de nuit dans un vieux manoir au nord de Paris, où il a passé la plupart du temps à genoux. Grâce à moi, dans le froid, et il a été d'une gentillesse, d'une disponibilité assez incroyable. Voilà. Donc après, parce que quel regard je porte un peu sur tout ça, c'est que a posteriori, ça a été vraiment une école de la patience, l'apprentissage de la résilience, de l'échec. Je parlais de mes scénarios de long métrage. Bah, ça a été des mois de travail souvent pour rien, sans retour, sans réponse. Et donc ça a été vraiment un apprentissage un petit peu, un endurcissement, et puis un peu plus positivement, surtout grâce à la dramaturgie, comme je disais, ça a été un apprentissage un peu du sens de la narration, apprendre à raconter une histoire, et surtout la satisfaction de mener à bien une histoire complexe, construite. Et donc ça m'a appris un peu le sens de l'engagement, le sens de l'achèvement, c'est-à-dire promettre, et puis se promettre déjà à soi-même en premier lieu, mais de terminer ce qu'on a commencé, et donc un peu de tenir sa promesse. Voilà. Après des mois de travail, terminer un scénario ou un roman, c'est quand même un sentiment qui est assez incroyable, qui est assez jouissif, et ces années de cinéma m'ont appris tout ça.
Alors pourquoi être passé du cinéma à la BD, puis à la littérature, à l'écriture de nouvelles et de romans?
Alors pourquoi je ne vais pas dire malgré moi, mais presque, c'est-à-dire qu'à la fin de La Larme du fantôme, on a obtenu un très joli petit court-métrage qui a eu une petite vie, mais qui m'a pas permis de passer le pas et de passer à soit un plus gros court-métrage, soit un long-métrage. Enfin voilà, c'est que je suis arrivé à un moment de ma vie où il fallait un job, où il fallait gagner un petit peu de quoi manger, de quoi se loger. Donc voilà, à un moment, on s'est dit avec ma future épouse, on s'est dit qu'il fallait peut-être tourner peut-être temporairement la page du cinéma de tous ces projets. Et donc là, je me suis dit, en fait, je vais prendre un de mes scénarios de long métrage, La pluie des corps, que je vais transformer en scénario de BD, et puis je vais me lancer dans cette bande dessinée. Voilà. Et donc je suis allé trouver une dessinatrice qui sortait de l'école Émile Cole. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux collaborer avec moi sur ce projet? Elle a été d'accord, et après ça a été une aventure de plusieurs années sur la BD. On a été édité à l'époque par Patrick Pinchard, qui avait monté les éditions Sendaway, qui est une super maison d'édition qui marchait en crowdfunding, et donc il a fallu qu'on réunisse la somme pour faire la BD, ensuite qu'on réalise cette magnifique BD qui était un one shot de plus de 90 planches. C'était sa première BD à Anaïs Bernabé, c'était la mienne, c'était ma première BD, ça a été un Everest, mais je pense que le résultat en valait la peine, ça s'est bien diffusé. Et donc ça a été une collaboration à deux qui était assez fructueuse, mais après ça je me suis dit ok, j'ai envie d'écrire tout seul, en fait j'ai envie d'avoir une liberté totale de plus avoir ces contraintes liées aux producteurs, par exemple aux distributeurs sur des courts-métrages ou des scénarios de long-métrage. J'ai envie d'être tout seul à mon bureau, on va dire, et une fois que mes deux filles sont nées, ont un peu grandi, je me suis dit, il faut que je me remette à l'écriture. Et donc, j'ai profité un petit peu de cette période pour écrire un recueil de nouvelles, Comédie inhumaine, à partir, en fait, de toutes les idées et de tous les projets avortés que j'avais eus sur mes années de cinéma. Donc, en fait, ce recueil, Comédie inhumaine, c'est un petit peu un recyclage de tout un pan d'idées, de projets mort-nés, qui m'a permis de clore une époque et de mieux rebondir sur la suivante. Voilà. Donc, en fait, dans Comédie inhumaine, mon recueil, vous avez un bel échantillon de tous les scénarios de courts, de longs métrages et de contes qui auraient pu donner éventuellement des films à une époque. Voilà. Et puis, assez logiquement, après le recueil de nouvelles, je me suis dit, j'y vais, mais j'ai peur, j'aimerais bien m'attaquer à un roman, en suis-je capable? J'ai testé, je me suis lancé, j'ai écrit plusieurs romans qui sont partis aux oubliettes, et le troisième d'entre eux, ça a été Le Geôlier.
Vous écoutez Florian Quittard, auteur de Le Geôlier, paru chez Rouge Profond, au micro de Culture Prohibée.
Quand on lit La pluie des corps ou Comédie inhumaine, quand on lit les deux d'ailleurs, il y a quelque chose qui, il y a des thèmes qui reviennent souvent, c'est le thème de la famille et notamment la figure du père.
Ouais, c'est vrai. Bah, même des, c'est vrai que la figure du père, même des L'Alarme du fantôme est assez présente parce que donc c'est l'histoire d'un vieil homme qui revoit la mort de son père. Donc, pour le coup, oui, la figure du père est présente depuis assez longtemps. C'était même assez drôle quand L'Alarme du fantôme est sortie le soir de la projection. J'étais un ami, connaissance de connaissance qui était venu me voir, qui m'avait mis la main sur l'épaule en me disant « Florian, je suis vraiment désolé pour le décès de votre père ». Je l'avais rassuré, je lui avais dit « Non, je vous rassure, mon père est en pleine forme, ça n'a rien à voir, j'ai pas du tout mis en scène son décès, je vous rassure ». Donc voilà, la figure du père est très présente depuis le début. C'est vrai que dans le recueil de nouvelles, elle est présente aussi, Comédie inhumaine, plus sous la forme de père cruel. Voilà, qui enseigne la vie à leurs enfants, on va dire plutôt par la manière forte. Voilà, et puis après, effectivement, souvent des pères absents dans le dernier roman que je suis en train d'écrire, ou alors des hommes qui aimeraient être des pères mais qui ne le peuvent pas pour différentes raisons, la maladie ou la vie. Donc effectivement, il y a pas mal de personnages qui offrent une figure. Un peu paternaliste aussi, à tort ou trompeuse, comme par exemple dans Le Geôlier, le directeur de la prison, ou de figures paternalistes même un peu salvatrices, bienveillantes, comme Le Geôlier lui-même, voilà, ou des pères d'adoption, des pères de substitution. Mais en tout cas, c'est vrai que dans pas mal de mes histoires, on a l'absence des parents biologiques. L'absence est assez fréquente. Et c'est vrai que ça renvoie à un autre thème que j'aime beaucoup, qui est la solitude, qui est assez présente chez mes personnages. Le rejet, l'errance, voilà, le fait de se chercher un passé, de se chercher une famille. Voilà.
Comment définiriez-vous votre rapport au fantastique ? Pour vous, le fantastique, qu'est-ce que c'est, Florian Quittard ?
Alors, le fantastique, je l'ai depuis pas mal de temps, depuis assez longtemps, peut-être même depuis toujours, je l'ai vu comme une sorte d'infraction à la normalité, en fait, comme une entorse au réel. Des entorses, infractions qui sont bienvenues, qui sont souhaitées même. J'aime à penser que le monde qui nous entoure peut être magnifique, que nos vies peuvent nous apporter le bonheur, la joie, etc. Mais la réalité elle-même n'a pas grand-chose de magique, en fait. On est soumis à plein de lois tout le temps, des lois physiques, biologiques, sociales, économiques. Et tout ça, ça rend un peu impossible et impensable des formes de magie dans le réel. Et le fantastique, le genre fantastique, c'est en quelque sorte l'intrusion dans la réalité d'une magie. Alors qu'elle soit blanche ou qu'elle soit noire, mais en tout cas, c'est une rupture avec le réel. Alors, une rupture qui peut être bénigne, bienfaisante, mais c'est une rupture avec l'ordre des choses dont on est un peu d'ordinaire prisonnier. Voilà. Le fantastique, pour moi, c'est un petit peu la possibilité d'une alternative à l'immuable. Voilà. C'est la possibilité d'une échappatoire, alors éphémère, illusoire, mais qui fait du bien. Voilà, moi je suis un vrai archétype du gamin des années 80 qui a grandi en banlieue parisienne, et force est d'avouer qu'à ce moment-là, le fantastique autour de moi, ça courait pas franchement les rues. Le seul manoir hanté que j'avais près de chez moi, c'est une station d'épuration. Le seul brouillard que j'avais, ça sortait des pots d'échappement des voitures autour de moi. mes voisins, c'était ni la famille Adams, ni un vampire attendant que je l'invite chez moi. Donc voilà, c'était assez pauvre en fantastique. Et donc, voilà, le fantastique avait ce côté un petit peu salvateur. Donc ça, c'est un petit peu la première chose. Puis là, le deuxième point sur le fantastique, c'est que, bah, bien entendu, pour se déployer comme il se doit, le fantastique, ça doit survenir dans le réel. Voilà, une réalité qui ressemble à la nôtre, à laquelle on peut s'identifier. Et c'est vrai que dans ce que j'écris, dans mes différents projets, j'aime bien placer ma réalité, celle que je décris, celle que je raconte, à un certain degré d'absurde. Voilà. Ça n'entache pas l'apparition du fantastique, hein, mais ça propose d'emblée une légère déformation, une légère exagération du réel. Voilà. Comme une sorte de miroir déformant en somme. Et donc, tout ça, ça donne un fantastique qui est basé sur de l'absurde et non sur du réel. Et le tout, comme vous pouvez le remarquer dans Le Geôlier ou dans d'autres projets comme L'Appui des corps, par exemple, ou encore Comédie humaine, le fantastique apparaît toujours dans un monde qui n'a pas de repères spatio-temporels précis, clairement nommés. C'est un petit peu la nuance que je fais entre le réalisme et la réalité, c'est-à-dire que chacune de mes histoires s'ancre dans un réalisme distinct, mais qui n'a pas de rattachement précis à une réalité reconnaissable. Par exemple, dans Le Dernier, je parle d'une capitale, mais j'évoque jamais Paris. Dans Le Geôlier, j'évoque un voyage, mais je cite pas des pays, je cite pas des continents, je cite pas d'années. Mes décors offrent souvent des lieux communs, villes, villages, cimetières. Il n'y a pas de géographie précise. Et parfois, en fait, les époques s'entremêlent, les objets, le contexte, les lieux mêlent passé, présent, futur. Dans Le Geôlier, en fait, on se dit, mais quand est-ce qu'on est ? On a l'impression qu'on est dans une ère industrielle, mais on a des drones du futur, on a des ruines qui appartiennent au passé. Donc tout ça se juxtapose sans que ce soit vraiment explicité. Donc voilà, pour moi, pour résumer, le fantastique, c'est ça rompt avec la normalité. Et la normalité d'un monde à qui j'aime donner un petit côté absurde, un petit caractère absurde et réaliste sans être réel en fait.
Alors Florian Quittard, vous êtes l'auteur du Geôlier, je le rappelle, il est sorti aux éditions Rouge Profond. Et vous parliez à l'instant de la normalité dans laquelle vous avez grandi, mais le fantastique, comment s'est-il inséré dans votre vie ? Par quel moyen ? Donc comment avez-vous rencontré le fantastique ?
Alors, moi, j'ai vraiment toujours aimé les histoires qui font de l'écran de télé ou du livre qu'on tient dans les mains une sorte de lucarne vers d'autres mondes, en fait. Alors, autour de cette lucarne, on a le monde, hein, tel qu'on le connaît réel, mais dans cette lucarne, dans cet écran, et au-delà, c'est de l'évasion, c'est de la poésie. Grâce au fantastique, ça peut être sombre, en fait, mais c'est pas grave. C'est une évasion qui est indolore et qui est même rassurante, réconfortante. Et moi, en fait, je me suis toujours, dans le fantastique, je me suis toujours senti, on va dire, presque en sécurité, peut-être même plus que dehors. Et c'est vrai que les histoires que j'aime, les histoires fantastiques, les mondes fantastiques que j'aime, m'ont toujours apporté une sorte de bulle dans laquelle j'aime me réfugier, j'aime me blottir. Des univers, c'est là, dans lesquels je me sens bien, malgré leur noirceur, leur inquiétante étrangeté, le malaise qui s'en dégage. Moi, je me suis toujours senti bien. Alors, c'est vrai que toute personne, un temps soit peu sensée, fuirait ça. Moi, je les recherche, en fait. Par exemple, si je devais donner des noms, un petit peu mettre des noms là-dessus, je me suis toujours senti bien chez David Lynch, par exemple, dans son univers. Je me suis toujours senti bien dans le cinéma d'un John Carpenter ou dans la Nouvelle-Angleterre d'un King ou d'un Lovecraft. Et plus jeune, d'ailleurs, c'est peut-être un petit peu passé aujourd'hui, notamment en raison de ces derniers films. On va dire que plus jeune, je me sentais vraiment bien chez un Tim Burton. Et d'ailleurs, le Ed Wood spécifiquement a été une révélation à ce niveau-là, parce que ça m'a permis de découvrir un type de cinéma, un type de fantastique, un cinéma artisanal avec un ton très particulier en fait que je connaissais pas à ce moment-là. Qui donne un côté un petit peu carton-pâte, très très poétique, fait à la main. Et à partir de cette époque, de ces découvertes d'Ed Wood, un peu à rebours en remontant le temps, et notamment grâce à la fac de cinéma, j'ai découvert mais des pans entiers de cinéma que j'ignorais jusque-là, le gothique italien, le gothique espagnol, la Hammer, bien entendu, les films de Murnau, l'expressionnisme allemand, tout ça. Et je suis tombé, en fait, vraiment à l'époque sous le charme des films, mais aussi de ceux qui créaient ces films et de la façon dont ils les créaient, avec une sorte de passion, de savoir-faire. Et donc tout ça, en fait, ça prenait vraiment la forme d'une pause dans le sérieux de notre temps, une sorte d'exutoire un peu insouciant. Et tout ça, en fait, ça m'a toujours paru assez réconfortant, et encore aujourd'hui, en fait, à l'adulte que je suis aujourd'hui, quoi.
Donc vous avez parlé là essentiellement de vos références cinématographiques. Moi, quand je dis le Geôlier, j'en vois d'autres. Hein. Bien sûr, il y a Lovecraft que vous avez cité, mais quand vous avez terminé le Geôlier, quand vous avez écrit un chapitre, ou est-ce que vous vous dites à un moment j'ai été influencé par ça, ou est-ce que c'est inconscient, consciemment, et quelles sont ces influences?
Alors, c'est assez inconscient, c'est-à-dire que vraiment, je ne dis pas, tiens, je vais mettre un cimetière à la Edgar Allan Poe ou à la Mario Bava, je ne vais pas mettre une brume à la Terence Fisher ou à la... Je pense que ce que j'ai mis dans le Geôlier, à partir du moment où j'ai compris que ça allait être vraiment mon véritable premier roman achevé et publiable, je me suis dit, ok, il faut que je sois en territoire connu, faut que j'ai mes repères, faut que ce soit réconfortant pour mener à bien cette première histoire. Donc je vais y mettre, sans mettre de titre précis et de nom précis dessus, je vais mettre un petit peu tout ce que j'aime, tout ce que j'ai connu. Donc en fait, quand on me pose la question, c'est vrai que j'aime dire que dans le Geôlier, il n'y a pas une référence précise, il y a 30 ans de référence, il y a 30 ans de cimetière brumeux, il y a 30 ans de villages et de villes portuaires de bord de mer un petit peu angoissantes, il y a des années de lecture sans mettre dessus des références très précises. Mais musicalement, c'est pareil. J'aime bien écrire en musique, et je sais que j'ai toujours peut-être une référence musicale qui vient accompagner un de mes projets. Par exemple, pour l'appui des corps, j'écoute en boucle la BO de The Fountain. Pour le recueil de nouvelles, c'est une chanson de Tom Waits, une musique de Tom Waits dans Alice. Par exemple, pour le Geôlier. J'écoutais beaucoup de Nick Cave, The Carney, voilà, en boucle, ou aussi une référence très précise, c'était Black Box Theme dans l'album Black Rider de Tom Waits. C'était une référence très précise qui m'a accompagné dans l'écriture, ou là encore sur le dernier que je suis en train d'achever, il y a toutes les BO de Carpenter et Alan Howarth que j'écoute un petit peu en boucle. Donc voilà, tout ça, ça donne une atmosphère sans tomber dans des références vraiment, vraiment, vraiment précises. Et c'est ça qui est drôle, c'est quand les gens lisent le Geôlier et me disent « Ah, ton personnage, c'est un tel, je l'ai reconnu, c'est John Caffey dans La Ligne verte. » Ou alors « Dis donc, ce lieu, ça m'a fait penser à ça, à tel film ou à tel livre. La ville dans le Geôlier, c'est clairement Innsmouth de Lovecraft. » Et moi, ça m'amuse de voir ce que les lecteurs autour de moi voient, eux, comme référence, en fait. À qui rattache le Geôlier, à qui rattache tel ou tel lieu ou personnage.
Et donc, un prochain roman en perspective, j'ai cru comprendre.
Oui, tout à fait, exactement. Un prochain qui sera aussi fantastique, mais d'un fantastique assez différent. On ne sera plus du tout dans une île au nord du monde ou sur un iceberg, mais on sera, encore une fois, sans le nommer précisément, on sera proche de la capitale, à une époque un peu indéterminée, aujourd'hui, demain, après-demain. Et on sera dans un lotissement, avec des maisons en rangée. Un lotissement un petit peu oppressant, avec une communauté à l'intérieur, une communauté comme on peut en voir dans pas mal de films, hein. On pourrait être dans une ville de Nouvelle-Angleterre qui plante de la folie, ou alors dans des romans comme ceux de Stephen King. Et on a vraiment cette communauté qui est repliée sur soi, qui rejette un petit peu le monde extérieur, et dans laquelle va apparaître le fantastique à travers des univers d'enfants qui vont se refermer les uns après les autres. Voilà. Et donc ça, ce qui devait être une idée au départ en soi assez simple, s'est transformé un peu en récit choral, en roman fleuve. Et à l'heure où je vous parle, je suis en train de mettre vraiment le point final à l'épilogue et j'ai un bébé, une première version de 600 pages. Voilà. Alors qu'il va falloir épurer, corriger. Mais le but, c'est que tout ça aboutisse à une V2 dans les mois qui viennent, qui partira entre les mains de l'éditeur.
Et toujours chez Rouge Profond, alors ?
Oui. Bon, si tout va bien, on croise les doigts, on touche du bois. Mais en tout cas, Guy Astic a hâte de lire ce roman. J'ose croire que ce roman va lui plaire. Et en tout cas, il s'inscrit dans la collection Les Mots Noirs aux côtés des autres romans. Donc, si tout va bien, il est fort probable que ce soit dans Les Mots Noirs. Et puis, je sais pas, on peut peut-être parier sur 2027.
Florian Quittard, merci. Alors, je le rappelle, vous êtes l'auteur du Geôlier, paru dans la collection Les Mots Noirs de Rouge Profond. Et donc, je vous dis à bientôt.
Merci Thomas, à bientôt.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier et dit La Gorgone. Une émission animée avec le soutien technique de Damien Demédi, la bête noire de Compiègne. Le soutien critique de Thomas Roland, on dit le loup-garou picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.